Vous êtes sur RTL. 14h30, 15h30,
on est fait pour s'entendre
avec Flavie Flamand sur RTL.
Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur RTL en ce lundi, merci pour votre fidélité. La semaine s'annonce variée, enlevée et passionnante comme d'habitude je dirais. Tiens par exemple mercredi on se demandera si l'on pourrait à l'avenir tous devenir végétariens et puis jeudi on interrogera ces couples qui se sont séparés depuis la crise sanitaire. Mais pour l'heure c'est un grand entretien que je vous convie aujourd'hui et ce jusqu'à 15h30. Je reçois celle que l'on appelle la première femme bionique de France. Elle s'appelle surtout Priscille, elle a 46 ans et suite à un accident, elle s'est retrouvée amputée de ses deux jambes et de son bras droit. Priscille est arrivée dans ce studio sur ses prothèses. Elle a même réglé la hauteur de son micro, je dirais presque, avec son bras bionique, bijou de la technologie qui répond à la force de son intention. Elle est artiste peintre, elle est championne de natation, elle pratique le ski et d'autres sports, elle est maman de deux jeunes filles, elle est mariée. D'aucuns penseraient qu'elle a tout perdu quand elle s'est jetée un jour sous une rame de métro en 2006 et à la lecture de son livre très lumineux, on ne peut que se dire que cette femme a gagné une victoire contre le handicap, une vie qui lui ressemble et surtout une grande liberté. Priscille Déborah, bonjour.
Bonjour Flavie.
Merci d'avoir accepté mon invitation. Bon, je l'ai dit, vous faites beaucoup beaucoup de choses, c'est-à-dire que maintenant il faut dérouler carrément un CV qui est absolument immense. Et vous êtes donc autrice d'un livre « Une vie à inventer » aux éditions Albin Michel avec Sandrine Cohen. L'incroyable leçon de vie de la première femme bionique de France. On va revenir évidemment sur tout votre parcours. Quand je dis que quelque part, d'aucuns penseraient que vous avez beaucoup perdu, mais en fait, là, quand je vous rencontre, je me dis qu'effectivement, vous avez gagné, quoi. Qu'est-ce que vous avez gagné ?
J'ai gagné juste d'être en phase avec moi-même, en fait, d'être à ma place, d'avoir trouvé ma place et ma liberté.
Voilà. Cette liberté chèrement acquise il faut parfois des drames pour pouvoir justement sortir d'un emprisonnement. On ne reviendra pas sur cette période trouble de votre vie où vous vous êtes senti partir au point de vouloir en finir, mais sur cette renaissance, vous êtes née deux fois ou pas?
Oui, quelque part je suis née à moi-même finalement la deuxième fois, c'est-à-dire que je dois quelque part ma deuxième naissance à personne. C'est vraiment la vie qui m'appartient, la vie que je me suis forgée et celle finalement qui me ressemble.
Quand on regarde dans le rétroviseur, la Priscille d'avant, c'était une femme qui marchait un peu à côté de sa vie, qui avait une vie que, je dirais, en fait, vous cochiez toutes les cases.
Ouais, c'est ça.
Voilà, exactement. La maison, le mari, la petite fille,
ouais, c'est ça,
un métier dingue dans l'audiovisuel. Ouais. Enfin bon, tout était parfait sur le papier. C'est quand même dingue de se dire que parfois, effectivement, il faut aller plus loin que la photo de papier glacé, non?
Exactement, c'est ça. C'est tout à fait ça.
Ouais, comment vous la décririez? Parce que c'est vous aussi.
Moi, j'étais en mini-jupe, talons hauts, à courir sur les tapis roulants et même à pousser des gens pour aller plus vite.
Ouais.
voilà, la parisienne, quoi. Hein, la parisienne pressée qui a l'impression que comment dire, son métier, c'est le plus important du monde. Enfin, voilà, ce côté-là. Et en même temps, j'étais assez effacée, finalement, dans le métier que je faisais souvent. D'ailleurs, on me disait pas bonjour. Enfin, voilà, en fait, j'étais corvéable à merci. Je répondais à des réalisateurs jusqu'à 4h du matin, du moment qu'on m'aime. Et je confondais un peu tout, en fait. C'est-à-dire que j'avais un grand manque d'amour. Je pense que j'étais un peu en mode survie depuis le décès de mon frère, qui a été le drame de ma vie. Donc, mon petit frère qui est décédé.
De la mucoviscidose.
Voilà, qui est décédé à 9 ans quand j'en avais 12. Et en fait, je me suis je suis partie dans une sorte de tourbillon pour surtout pas penser finalement. Je pense une sorte de carapace pour en fait cacher mon émotion et tout ça. Et aussi répondre aux aspirations de mes parents, voilà, à la pression familiale parce que mon père il est polytechnicien, ils sont tous polytechniciens de père en fils. Et donc, soit il fallait que je sois mère de famille, 4 enfants minimum à épouser un bon parti. Ou soit une femme carriériste mais avec un grand C, voilà. Et en fait, je me suis rendu compte que moi, c'était pas du tout ma façon de vivre. Enfin, déjà, moi, je voulais être artiste depuis toujours. Et je pense que j'avais besoin justement de prendre le temps, Et là, cette première vie, en fait, j'étais tout le temps à courir justement après moi-même. Et c'est comme si finalement le handicap, ça m'avait permis de me poser. Et de m'obliger finalement à me dire finalement c'était quoi ma priorité dans la vie, qu'est-ce que je voulais en faire et quelle était finalement ma propre façon de vivre, comment finalement il faut à un moment donné se défaire finalement de tout ce qui peut nous entraver dans la vie, des injonctions qu'on a pu avoir, aussi bien de la famille que aussi des ancêtres, parce qu'il y a aussi tout ce côté un peu psychogénéalogique qui
oui, c'est le poids, l'héritage en fait,
c'est ça, hein. Voilà, c'est ça, et aussi des injonctions de la société, parce que moi j'étais très à vivre avec des images d'Épinal. justement, par exemple, la mère parfaite qu'on voit dans les magazines avec son bébé où elle met la crème Nivea, par exemple. Voilà, moi, je voulais être une mère comme ça, à la base.
Donc, une Priscille qui marchait à côté de ses pompes, voilà, qui suivait le mouvement, hein, un mouvement que vous n'aviez pas décidé. Et puis, donc, un jour, une volonté, bon, bref, que tout cela s'arrête. Et parfois, effectivement, on veut que la vie s'arrête parce qu'on ne veut plus souffrir.
C'est ça.
Et vous vous réveillez un matin à l'hôpital. Et là, bon, bah, commence le début, je dirais, d'une nouvelle vie. Parce que vous dites ma vie d'avant, donc il y a la vie de maintenant.
C'est ça.
Et le début d'une nouvelle vie où vous réalisez quand même que, bon, voilà, cette vie va considérablement changer. C'est-à-dire que sur le coup, c'est pas un cadeau l'histoire.
Ah non. Évidemment que quand je me réveille, j'en veux évidemment à ceux qui m'ont sauvée. Parce que je me dis, mais est-ce qu'ils sont un instant imaginés à ma place, quoi ? Est-ce qu'eux, ils auraient pu vivre comme ça ? Donc effectivement, ça, c'est les premiers sentiments.
Parce que
après...
donc, pour ceux qui nous écoutent, hein, qui arriveront en cours de route, vous vous réveillez, vous êtes amputé.
Voilà, amputé des deux jambes et du bras droit. Donc en fait, voilà, en plus je peux plus rien faire. Enfin, je suis sur mon lit d'hôpital et je peux même pas bouger. Enfin voilà, je peux même pas d'ailleurs, accéder au bouquin qui sera à l'autre bout de la pièce. Enfin, de toute façon, j'ai même pas envie de lire, mais voilà. Et effectivement, je hurle dans ma chambre et en fait, évidemment, on pense à tout ce qu'on faisait avant. Et en fait, chaque truc auquel je pense avant, je peux plus le faire, en fait. Donc, un deuil, en fait, à faire sur tout. Enfin, voilà, et du coup, on a l'impression de repartir à zéro, en fait. Enfin, voilà. Et puis aussi d'appartenir à ce monde du handicap que moi, je connaissais absolument pas.
Et donc, sur lequel vous aviez aussi des préjugés.
Oui, exactement. Et que je rejette en bloc, évidemment, au départ, en me disant, mais moi, je ne veux pas faire partie de ces gens-là, quoi.
On va revenir, justement, à tout ça, à votre parcours. Ce sera dans un instant. Nous sommes ensemble jusqu'à 15h30 sur RTL. À tout de suite.
Sa vie flamand sur RTL. Sur RTL.
Jusqu'à 15h30.
Priscille Déborah est votre invitée aujourd'hui jusqu'à 15h30. On est ravis de passer une heure avec elle et moi encore plus suite à la lecture de son livre Une vie à inventer aux éditions Albin Michel. Cette vie à inventer, c'est la vie d'une personne qui n'en pouvait plus de vivre et qui un jour se réveille, c'est ce que vous venez de nous expliquer, à l'hôpital. Priscille Déborah a en vouloir à la terre entière et à ceux qui vous ont sauvé d'une tentative de suicide parce qu'effectivement il vous manque donc deux jambes et un bras. Cette vie à inventer, vous dites effectivement, c'est une plongée tout à coup dans le monde du handicap, le monde sur lequel j'avais des préjugés. Mmh. Et en même temps, effectivement, vous n'aviez pas d'autre choix que de faire ce plongeon. Et ce que je trouve très incroyable, en fait, à la lecture de votre livre, c'est qu'on sent que très vite, vous comprenez qu'il faut y aller, quoi.
Oui, tout à fait. En fait, j'ai mis à peine 5 mois, je crois, à avoir le déclic. En fait, j'ai fait des rencontres déterminantes à ce moment-là. Et c'est vrai qu'avant, dans ma première vie, j'avais fait comme ça des rencontres, c'est un peu des messagers parfois qu'on a sur la route, mais que j'écoutais pas du tout. Et là, en fait, bizarrement, j'ai enfin écouté.
Déjà, racontez-nous quand vous arrivez, parce que c'est ça, vous arrivez à la maison, cette maison elle n'est pas faite pour le handicap.
Ouais, c'est ça, c'est qu'en plus, moi évidemment je ne pense même pas imaginer de déménager, enfin, j'essaye de vivre dans cette maison effectivement avec un escalier, avec des marches, et en fait le seul moyen de par exemple sortir en fauteuil électrique c'est par le garage, en fait du coup j'ouvre la porte du garage.
Ça devient la porte de la maison.
Ouais, c'est ça, et effectivement ouais, tous les repères sont complètement chamboulés, quand je vais attraper un truc qui est en hauteur, je peux plus l'attraper.
Vous avez une petite fille en bas âge.
Voilà, c'est ça. Donc, elle a à peine 2 ans. Et donc, par exemple, quand elle veut mettre son blouson, en fait, je ferme, avec les dents, la fermeture éclair à moitié pour qu'après elle l'enfile comme un pull, par exemple.
Parce qu'à ce moment-là, vous ne portez pas encore de prothèse. Hein.
Voilà, c'est ça. En fait, je ne porte pas de prothèse de bras. Et puis, en fait, je suis tout juste, je suis pas encore vraiment cicatrisée. Donc, en fait, je suis beaucoup finalement en fauteuil manuel à la maison. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que quand on est handicapé, le pire, c'est ce côté où on n'est plus autonome, quand on a été habitué à être indépendant pendant 30 ans de sa vie.
N'avoir besoin de personne, tout à coup, on se retrouve dans une dépendance.
C'est ça,
totale.
Pour la moindre des choses. Et ça, c'est hyper humiliant, c'est hyper infantilisant.
Est-ce que c'est à ce moment-là que vous vous êtes aussi, quelque part, que vous avez un peu... c'est une expression maintenant qui est reprise tellement partout, mais que vous avez un peu lâché prise, quoi. C'est-à-dire que, est-ce que sans cette... parce qu'on sent dans votre livre que c'est tout un parcours aussi humain, c'est toute une aventure. À la rencontre de vous-même. Est-ce que le fait de s'en remettre aux autres et d'être obligé de s'en remettre aux autres, quelque part, vous a attendri pour pouvoir vous ouvrir aussi à d'autres réflexions. Vous voyez ce que je veux dire ?
Oui, ça c'est évident. Alors après, c'est vrai que ce qu'il y a, c'est que moi, quand je suis revenue à la maison, si vous voulez, j'avais retrouvé un sens à ma vie. C'est-à-dire que je m'étais dit, puisque finalement je suis comme ça, après tout, je vais réaliser tous mes rêves. Et donc, j'avais décidé de devenir artiste peintre. Donc ça, c'est vraiment le premier moteur qui m'a donné cette espèce d'énergie où j'avais une soif de peindre et de rencontrer des gens. Et après, c'est vrai que quand on est finalement à sa place, on fait pas les mêmes rencontres que finalement quand on est mal dans sa peau. C'est-à-dire qu'en fait, on est en phase, on rencontre les bonnes personnes, il y a des énergies qui circulent. Et en fait, moi, je me suis retrouvée un peu à vouloir rester un peu finalement justement avec des gens un peu comme moi, un peu des bras cassés, un peu des gens qui avaient un vécu avec, avec des cicatrices, parce que ça me faisait du bien voilà, de me sentir un peu comme eux finalement. Et j'ai rencontré derrière ça des gens incroyables, parce que ce que je trouve formidable, c'est de rencontrer des gens comme ça qui ont des cicatrices importantes et qui se sont relevés en fait. Et c'est eux aussi qui m'ont porté. Et c'est vrai que tout d'un coup, j'ai vu les autres finalement d'une façon complètement différente. Moi, j'étais empreinte de préjugés, de stéréotypes.
Quels étaient les préjugés que vous aviez ?
Oh bah je sais pas, je me faisais très vite une idée, je voyais quelqu'un et je me faisais une idée sur le métier qu'il faisait, sur je sais pas.
Par exemple, on se serait rencontré à l'époque, vous auriez eu des préjugés sur moi que vous n'avez pas aujourd'hui. Non mais c'est intéressant.
Ah mais c'est sûr, à mon avis, vous m'auriez impressionné. Voilà, j'aurais peut-être pensé que vous aviez les dents qui rayaient le parquet.
Tout à fait juste. Non, mais c'est hyper intéressant ce que vous nous dites.
Ouais. Donc voilà. Et là, en fait, finalement, on remet tous les compteurs à zéro, mais sur tous les plans, en fait.
Mais ouais.
C'est-à-dire que tout d'un coup, vous essayez de rencontrer l'âme de la personne. Voilà. Et en fait, c'est fascinant parce que moi, c'est comme ça que je rencontre les gens maintenant et j'adore. Et en fait, ça n'a fait que boule de neige. C'est-à-dire que depuis que je suis finalement dans cette situation de handicap, j'ai rencontré que des gens, mais incroyables, quoi. Et ça s'est jamais arrêté.
Des gens incroyables qui donc vous ont ouvert les portes d'un nouveau monde. Mmh. Un nouveau monde dans lequel vous deviez pas spécialement avoir envie d'aller au départ. Et en fait, vous y êtes allé au point de vous dire, je vais me surpasser. Je vais me dépasser. Mmh. C'est-à-dire que ce que l'on sent, c'est que dès le départ, quand vous rentrez à la maison et que vous descendez les escaliers sur les fesses, on a confiance en vous déjà. Vous voyez ce que je veux dire ? On ne se dit pas que ce profil-là, la première femme bionique de France, parce qu'après, vous allez nous raconter cette aventure incroyable, mais on sent une personne qui, tout à coup, va sentir l'essentiel et va se raccrocher à ses essentiels.
Exactement. C'est-à-dire qu'avant, je me noyais.
Vous avez
vraiment
des objectifs tout de suite, quoi.
Oui, oui. Et puis avant, je confondais tout, justement, les gens du boulot, je les prenais pour mes amis. Enfin, voilà, il y avait vraiment ce truc où, du coup, rien n'était clair. Et là, en fait, tout commence à se clarifier. C'est-à-dire que mes piliers, finalement, ça va être ma fille et ma peinture, en fait, dans un premier temps. Et les rencontres aussi.
Alors, la peinture, on va y revenir dans un instant, puisqu'on va parler avec Gérard. Vous voyez qui est Gérard.
Oui.
Gérard Safar, qui est président fondateur de l'association Art Prime. Vous allez nous expliquer de quoi il s'agit, car on sent, et vous l'écrivez d'ailleurs, que c'est une rencontre déterminante.
Ah, oui.
À tout de suite sur RTL.
Flavie Flamand sur RTL. Flavie Flamand sur RTL.
Jusqu'à 15h30.
Merci d'être avec nous. Notre invitée aujourd'hui, c'est Priscille Déborah. Alors Priscille Déborah, c'est fou parce que vous nous l'expliquez d'ailleurs dans votre livre. Vous êtes devenue une héroïne depuis que vous êtes la première femme bionique de France. Auparavant, vous étiez dans un monde de, et vous l'êtes toujours d'ailleurs, dans le monde du handicap. Et vous nous en avez très joliment parlé il y a un instant. Et on va en parler avec Gérard Safar dans vraiment quelques secondes. Mais néanmoins, vous dites, je suis devenue une héroïne, quoi.
Oui, oui, effectivement. Ben quand en fait vous détaillez le schéma, par exemple dans les contes du héros.
Ouais.
En fait, le héros, c'est quelqu'un à qui il arrive en fait un problème et puis qui va rencontrer des gens et puis finalement à la fin il va réussir à tout vaincre en fait.
Ouais. Voilà. Ben, vous avez tout vaincu et puis vous êtes première femme bionique de France. Vous nous expliquerez. Parce qu'effectivement, là, je vous accueille aujourd'hui. Vous avez vos prothèses et vous avez ce bras droit donc et que vous êtes en train de déplacer et de poser. Et on l'entend là d'ailleurs. Hein. Là, vous saisissez la table.
Oui, voilà, c'est ça. Histoire de me tenir en fait.
Très bien. En tout cas, soyez la bienvenue. Tenez-vous bien avec ce bras qui nous impressionne tous, mais qui fait partie intégrante maintenant de votre corps. On accueille Gérard Safar parce que vous nous avez expliqué, effectivement, Priscille Déborah, à quel point la peinture avait de l'importance pour vous et à quel point elle en a eu au moment aussi de votre accident. Gérard Safar, bonjour.
Bonjour.
Soyez le bienvenu sur RTL.
Bonjour Gérard.
Merci d'être avec nous, Gérard. J'ai fait votre connaissance dans le livre donc de Priscille et je me suis dit, mais il faut absolument que je rencontre cet homme, au moins par téléphone, parce que étant passionné d'art et d'expression artistique, on se rend compte à quel point effectivement dans des épreuves de la vie, certaines pratiques d'art peuvent nous sauver, être tutrices de résilience.
Tout à fait. En tout cas, moi, les gens que j'ai rencontrés dans le monde du handicap, c'était essentiellement pour la plupart des artistes et ils avaient tous une sensibilité exacerbée.
Mmh. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est l'association Art Prime ?
Alors l'association Art Prime, en fait, c'est un collectif d'artistes en situation de handicap ou pas, parce que c'est pas non plus une secte.
Ouais.
Mais on a réussi. Bah oui. Mais on a réussi. En tous les cas, on a réussi en 2005. À créer un collectif avec des artistes qui étaient des cachés de la vie
ouais.
et qui avaient malgré ça une force extraordinaire. Et du coup, qui pouvait mobiliser plein d'autres gens autour d'eux. Parce qu'ils étaient leaders. Ils ne savaient pas, en fait. Et je crois que l'association Artprime, c'est ce qu'elle a mis en avant. C'est vraiment des artistes puissants, puissance 10.
Je comprends. Est-ce que, justement, Priscille Déborah, quand vous peignez, on découvre vos peintures dans votre livre, qui sont très, très, très belles, très impressionnantes, est-ce que c'est une façon d'être ailleurs? Quand effectivement Gérard nous dit, bah ouais, à un moment donné, ce sont des artistes puissance 10, est-ce qu'il y a tout à coup, je sais pas, des contrées comme ça intérieures qui se découvrent à nous?
C'est ce qui me fait vivre. Enfin, c'est vraiment le sang qui coule dans mes veines, en fait, vraiment, quoi. C'est-à-dire que quand je peins pas, je suis pas bien. Ça fait partie vraiment de mon équilibre. Et vraiment de mon bien-être, en fait. Et c'est quelque part une sorte de méditation. C'est-à-dire que moi, je mets la musique et je m'en vais en voyage et je vois pas les heures passer. Et souvent, je dis, ah, mais il est 5 heures du soir, mais je pensais qu'il était...
Est-ce qu'on y met que de la joie dans ces œuvres?
On y met toutes les émotions, en fait. C'est vraiment, c'est ça qui est génial, c'est que ça peut être de la colère, de la joie, de la tristesse. C'est ça qui est top, quoi.
Gérard Safar, c'est en ça aussi que l'association est importante pour ceux qui en ont besoin. C'est que c'est l'expression, finalement, de leur ressenti, de leurs émotions.
Oui, en tout cas, nous avec l'association, on a donné la possibilité de créer des événements, donc de mettre en avant ces artistes. Après, c'est tous ceux qui sont avec nous, ce sont tous des électrons libres. Donc, on est une association, mais on est plus un collectif. Et donc, on réussit à créer parfois de gros événements qui peuvent mettre en avant des artistes. Et puis après, ils se lancent, ils font leur vie, ils s'éclatent, quoi.
Priscille Déborah, d'ailleurs, vous avez exposé très vite. Ce qui est dingue, c'est que votre temps valide, vous ne l'aviez jamais fait.
Oui.
Et que là, en fait, très rapidement, vous vous êtes retrouvée avec des œuvres exposées.
Oui, alors après, moi, si vous voulez, je peignais avant, donc j'avais déjà 50 toiles en stock. C'est pour ça aussi que j'ai pu très vite exposer.
Oui, mais vous ne l'auriez pas fait dans votre vie d'avant. Vous n'y accordiez pas ce temps-là.
Parce qu'en fait, à chaque fois, je repoussais en disant plus tard, plus tard, plus tard, quoi.
Et ça, cette exposition, pour vous, ça a été mettre un pied dans une nouvelle vie aussi?
Ah oui, vraiment. Et puis Gérard, moi, j'adore ce genre de personnes. C'est-à-dire que c'est des gens qui disent, mais ça, c'est pas parce que tu as deux jambes en moins que tu peux pas exposer. Enfin, voilà. C'est vraiment, il avait cet humour et cette démystification du handicap dont j'avais besoin pour me lancer dans un premier temps déjà dans le côté art et handicap et après en tant qu'artiste à plein temps, vraiment pro, quoi.
Gérard Safar, vous vous sentez effectivement investi d'une sorte de mission qui est d'accompagner ces gens qui viennent vous voir sur un chemin beaucoup plus lumineux, quoi. Et en même temps, d'une façon très pragmatique, faut être secoué un peu.
Écoutez, moi, je traduis ça, en tous les cas, moi, je traduis ça par rapport à ma propre expérience. Je suis handicapé aussi. J'ai été plutôt combatif par rapport à ce qui m'est arrivé et j'avais envie de transmettre ça. C'est ça que j'essaye de transmettre. De dire, non, tout le monde en a encore sous le pied, vous pouvez tous faire quelque chose. Il suffit d'avoir envie, en fait. Et les artistes, souvent, ils sont animés. Donc, il suffit juste d'appuyer sur la bonne touche, et puis ça part, en fait.
Non, mais j'adore, c'est bon, c'est rire, ça fait du bien, quoi.
C'est la réalité.
Mais oui, mais vous avez raison, mais vous en parlez très bien et c'est évidemment contagieux. Merci beaucoup Gérard Safar d'avoir accepté notre invitation.
Merci à vous.
Et je rappelle donc l'association.
Salut Gérard.
Artprime. À bientôt Gérard sur RTL.
À bientôt.
On va faire un tour par l'information. Ensuite, on va se retrouver évidemment Priscille Déborah. Vous allez nous expliquer cette aventure bionique qui évidemment fait rêver les enfants, j'imagine, et qui nous pose question parce que on se rend compte effectivement à quel point dans votre parcours ce bras aussi a été une sorte d'avancée pour vous mais pour les autres. Et on accueillera d'ailleurs Silvio Bagnarossa qui est votre orthoprothésiste. À tout de suite sur RTL.
Flavie Flamand sur RTL. Flavie Flamand sur RTL jusqu'à 15h30.
Aujourd'hui, j'ai le plaisir de rencontrer Priscille Déborah et de vous la présenter. Une vie à inventer, c'est son livre chez Albin Michel, l'incroyable leçon de vie de la première française bionique. Dites donc, ça donne envie quand même. Ils sont très forts chez Albin Michel. Et en même temps, quand on lit votre livre, Priscille Déborah, c'est vrai. C'est vrai. Est-ce que vous vous rendez compte que c'est incroyable ou pas?
Effectivement, parfois j'ai du mal à réaliser.
Parce que c'est votre vie, quoi.
Oui, puis c'est allé très vite finalement, notamment pour cette histoire de bras, en fait. fait, voilà, tout d'un coup, je suis devenue la femme bionique, Super Jimmy.
Oui, c'est ça.
J'ai déjà cet avatar. En fait, c'est venu un peu naturellement. Et c'est vrai que oui, c'est assez incroyable.
Alors, vous êtes venue en robe magnifique, une sorte de robe un peu du samedi soir, hein, pardonnez-moi, mais c'est celle que je mettais à l'époque où je sortais encore en boîte. Vous êtes canon, vous êtes magnifique, vous êtes éminemment féminine, et vous l'étiez avant, hein, vous étiez perchée sur des talons, aujourd'hui vous êtes perchée sur des prothèses. Pour vous, ça n'a absolument pas changé. Si votre regard a changé sur la vie, sur les autres, sur le monde du handicap, il n'a pas changé sur vous-même et sur la féminité.
Oui, mais par contre, elle n'est pas placée pareil, c'est-à-dire qu'avant, j'étais pas forcément bien dans ma peau, donc en fait je masquais par justement une féminité excessive. Là c'est un peu différent, là c'est aussi un peu un engagement par rapport au regard sur le handicap, en disant c'est pas parce qu'on est handicapé qu'on doit avoir les cheveux gras et rester en vieille avec une vieille couverture sur soi en regardant la télé toute la journée, quoi. Enfin voilà, donc tout ça pour dire qu'on peut être sexy et
avoir une vie amoureuse.
Voilà, c'est ça, et je trouve que l'apparence, bah, c'est hyper important. Enfin, c'est aussi un respect par rapport aux personnes qu'on rencontre, même pour soi d'ailleurs. Et voilà.
Est-ce que vous avez eu le sentiment parfois d'être réduite aussi à votre handicap ? J'entends par là, je disais, vous avez eu une vie amoureuse, vous êtes la maman de deux petites filles, vous avez eu une petite fille donc, après votre amputation. Et tout de suite, le personnel médical a eu envie de vous assister d'une certaine façon et vous a proposé, enfin, sans même presque vous le proposer, mais était vraiment parti pour une césarienne que vous avez refusée.
Oui, tout à fait. Enfin, en fait, c'est vrai que depuis que je suis handicapée, les regards sont un peu différents en fonction des gens, et il y en a qui vous réduisent à moins que rien, ou décident à votre place, en fait. Ou parfois des gens qui disent elle veut manger quoi ? Ben elle a une voix, en fait, elle peut parler.
Enfin, voilà, elle a plus de jambes, mais elle a toujours une voix et des envies, quoi. Mais c'est important.
Donc voilà, et donc la césarienne, ça en fait partie. Donc en fait, moi, je suis habituée, depuis que je suis handicapée, à avoir parfois des gens qui décident pour moi, ou voilà. Donc j'ai tout de suite dit non. J'ai dit non, moi, je peux encore pousser. Je suis pas paraplégique, et encore, ça dépend des paraplégies. Donc je ferai comme tout le monde et j'essaierai de pousser pour que le bébé sorte.
Et c'est ce qui s'est produit.
Et ça s'est bien passé, voilà.
Une très jolie petite fille. Ça veut dire qu'en fait, vous n'avez de cesse, vous, d'aller plus loin dans votre vie, dans vos envies, et vous êtes obligé parfois de secouer un peu le monde pour qu'il vous suive, parce que sinon, en fait, en réalité, vous allez plus vite que les autres, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ?
Non, mais en fait, pour avoir eu, je pense, des préjugés moi-même, maintenant, vraiment, aussi, mon fer de lance, c'est vraiment ce côté de combattre les préjugés, parce que je trouve que ça peut mener vraiment à des choses horribles, d'ailleurs, et du coup, le handicap en fait partie, c'est-à-dire que pour moi, la mixité, elle est hyper importante, que ce soit d'ailleurs au niveau du handicap, ou de la couleur de peau, ou autre, quoi, c'est-à-dire, la mixité, c'est une richesse. C'est pas voilà, quand on est handicapé, on n'a pas que des choses en moins, on peut aussi avoir des choses en plus. Et ce que disait Gérard justement sur la force qu'on a, c'est vrai que quand on a un handicap d'un certain niveau, en fait, on est obligé de puiser en soi une force insoupçonnée et que les gens n'ont pas forcément révélé, mais parce qu'ils en ont pas forcément eu besoin, en fait. Et c'est vrai que ça, en fait, c'est pour ça que moi je suis vachement dans la transmission, c'est que moi cette force, j'ai envie aussi justement de la transmettre aux autres, de dire mais la vie c'est ça, la vie c'est la passion, c'est pas genre la vie c'est comme un lundi ou je sais pas quoi.
En tout cas, moi, ce lundi-là, je veux bien le renouveler régulièrement parce que c'est un plaisir de rencontrer des gens comme ça, surtout en cette période. Donc la vie, c'est pas comme un lundi, on a bien compris. Et en même temps, on a de cesse d'avancer, et on a le sentiment que rien ne vous a arrêté. Vous avez faire la connaissance avec un nouveau corps. Vous avez ce corps, vous avez appris à le connaître, vous avez appris à vous dépasser, vous ne vous êtes rien refusé, et vas-y que je nage, et vas-y que je fais du ski, enfin bon, rien ne vous arrête. D'ailleurs, sur les bassins que vous avez rencontré l'homme de votre vie. Donc, effectivement, vous avez vécu, je dirais, quasiment normalement. En tout cas, vous n'avez pas voulu avoir la moindre barrière. Néanmoins, vous aviez quand même la barrière du physique et des prothèses qui vous permettaient finalement d'avoir une vie quotidienne la plus confortable possible. Mais vous aviez vraiment perdu l'usage de votre bras. Et puis un jour, vous avez rencontré Silvio Bagnarossa. Et là, vous l'écrivez dans votre livre, il est allé plus loin que vous.
Voilà.
Tout le monde vous suivait, mais lui, il est allé plus loin que vous. Il vous a dit, tu sais quoi, on va te mettre un bras bionique. Il nous raconte ça dans un instant.
Flavie Flamand sur RTL. Flavie Flamand sur RTL.
Jusqu'à 15h30.
Priscille Déborah, comment est-ce que vous pourriez qualifier la personne que nous allons accueillir dans un instant sur cette antenne ?
Ouh là là, j'ai trop d'adjectifs... chouette, quoi. Non, c'est vraiment
c'est
quelqu'un
quoi, on va l'accueillir comme ça, il va vous entendre en direct. Bonjour Silvio Bagnarossa.
Bonjour, enchanté.
Soyez le bienvenu, merci d'être avec nous. Vous êtes orthoprothésiste et donc je vais reposer la question, puisque là vous allez bien l'entendre. Priscille, comment est-ce que vous pourriez définir Silvio Bagnarossa? Bon, alors évidemment, on a bien compris que lui, il est allé plus loin que vous.
Ouais, hein, c'est ça.
Mais c'est surtout qu'en fait, il a considérablement changé votre vie, quoi.
Ah oui, c'est ça. C'est quelqu'un d'extrêmement, très professionnel, très curieux, hyper enthousiaste aussi. C'est quelqu'un d'extrêmement positif et il adore ses patients, en fait. C'est-à-dire que il fait pas des petits horaires, hein. Il bosse jour et nuit et il a un sourire jusqu'aux oreilles quand tout d'un coup il voit ses patients marcher ou avoir un bras qui fonctionne et tout ça. Et il a un côté un peu petit gamin en fait, qui est toujours émerveillé en fait par toutes les trouvailles qu'il peut faire et tout ça, qu'il peut dénicher.
Mais c'est magnifique, vous faites un métier magnifique, Silvio Bagnarossa. On comprend votre satisfaction d'accompagner des personnes dans des aventures comme celle-ci. Mais est-ce que c'est quelque chose que vous auriez pu proposer à tous les patients, ou est-ce que vous sentiez chez elle une force de caractère, quelque chose qui faisait qu'elle était en mesure d'accepter cette prothèse si particulière?
Bah, alors, tout à fait, il y a déjà deux critères qui me viennent à l'esprit. Le premier, c'était le niveau d'handicap de Priscille.
Ouais.
L'aggravation qui était en train d'évoluer concernant son membre sain, et donc qui était en train de s'abîmer. Donc on avait vraiment, il fallait trouver une solution pour augmenter son autonomie et lui permettre d'utiliser deux bras pour éviter de sursolliciter son bras gauche.
Mmh.
Comme vous savez, elle est amputée de hanche, amputée tibiale, et l'utilisation des bras électriques habituels nécessite l'utilisation d'un membre inférieur pour pouvoir mobiliser le coude. Donc là on n'était pas dans le bon, c'était pas possible. Donc du coup voilà, la première raison c'était ça, c'était vraiment le compenser le handicap qui est très lourd chez Priscille. Et donc du coup on a tellement travaillé, elle s'est tellement battue pour apprendre à marcher correctement que je me suis dit elle a la volonté de pouvoir le faire. Alors après, est-ce qu'elle voulait réellement suivre une chirurgie? Ça, c'était pas gagné. Surprise, elle a accepté la chirurgie après maintes réflexions, parce qu'elle a posé beaucoup de questions. Hein.
Normal. Et alors, justement, est-ce que vous pouvez nous expliquer le principe de ce bras bionique?
Le bras, il fonctionne d'une manière très simple. Hein. C'est un système qui est assez ancien dans le cœur de son fonctionnement. Il fonctionne avec des électrodes qui sont positionnées dans une emboîture.
Mmh.
Donc l'emboîture, c'est la boîte qui vient réceptionner le moignon. Et donc, à l'intérieur, on va positionner des électrodes qui seront en contact avec la peau. Et donc, lorsque Priscille va décider de contracter un muscle, on va avoir un signal électrique qui va fonctionner dans le muscle. Et cette électrode va capter le signal électrique qui va envoyer une information au cerveau moteur qui est dans le poignet, dans la main et dans le coude, et qui va donner la bonne information. À l'heure actuelle, en fait, en temps normal, on n'a que deux commandes, deux muscles qui peuvent donner des informations. Dans le cas de Priscille, le gros avantage, c'est qu'on a maintenant optimisé l'utilisation en mettant 5 électrodes. Et surtout, on a réinnervé donc les muscles du bras par les nerfs de la main et du poignet. Ça veut dire que la patiente, quand elle pense ouvrir la main, c'est vraiment la main qui s'ouvre. Alors qu'avant, il fallait qu'elle pense à contracter le muscle du bras pour ouvrir la main, ce qui n'est pas physiologique.
En fait, ce qui est un nouveau langage, hein, vous aviez un langage presque décodé, je dirais, auparavant. Est-ce que vous y pensez toujours à votre bras bionique ou
Non, non, mais franchement, voilà, là, je vais ouvrir la main, j'ouvre la main, je vais fermer la main, je ferme la main. Là, c'est la position qui est comme ça, mais voilà, c'est vraiment immédiat. Là, je déplie le coude instantanément, je plie le coude instantanément. Enfin, je pense même plus au mouvement pour qu'il le fasse, quoi. C'est un truc de fou.
Merci beaucoup, Silvio Bagnarossa, pour tous ces éclairages.
C'est avec grand plaisir.
Passionnant. J'espère qu'on aura l'occasion de vous recevoir un jour dans ce studio pour nous raconter votre métier.
Quand vous voulez.
Ah bah, avec grande joie.
Merci
beaucoup Silvio. À bientôt.
Merci
sur
à vous
RTL.
Tous. Bonne journée.
Au
à
revoir.
Bientôt.
Flavie Flamand sur RTL. Flavie Flamand sur RTL
jusqu'à 15h30.
Et on poursuit donc notre conversation encore quelques minutes. C'est marrant parce que vous jouez avec. Enfin, vous jouez. Qu'est-ce que vous faites avec votre bras, Priscille? ce bras avec lequel vous vivez et vous venez de nous raconter avec Silvio Bagnarossa cette aventure qui fait de vous donc la première femme bionique de France. Ce bras, en fait, vous ne l'avez pas toujours, vous ne le portez pas toujours.
Non, non, alors ça, on l'avait effectivement. Voilà. Je dors pas avec.
Pour ceux qui nous écoutent,
Je le mets le matin et je l'enlève le soir.
Donc en fait, il se branche le matin. En c'est fait, en ça que vous êtes
en
bionique.
Fait, si vous voulez, enfin, j'ai un moignon là que j'enfile en fait dans la prothèse. Donc, comme dit Sylvio, c'est vraiment une prothèse qu'on enfile avec un tissu parachute pour que vraiment le moignon il soit calé en fait bien dans la prothèse. Et après, j'ai un harnais qui permet de tenir la prothèse. Donc, c'est comme si je portais un sac à dos de 3 kilos. Ça pèse 3 kilos en fait toute la journée. Donc, c'est juste le truc où.
Est-ce que c'est difficile? Parce que vous disiez il y a un instant, bon, on oublie, j'oublie de penser à ça.
Ouais,
mais
c'est toujours l'histoire du mental en fait. C'est à un moment donné, si on décide d'oublier, on oublie quoi. Voilà. Et du coup, j'ai décidé que ça ne me pèserait pas trop lourd et ça ne me pèse pas lourd. Non, après, je me suis musclée. Enfin, voilà.
Vous n'avez jamais fait autant de sport, je dirais,
ouais,
qu'aujourd'hui.
Oui, avant, je faisais des salles de sport juste pour avoir le bon poids idéal. Et maintenant, effectivement, je fais plein de sport. Mais ça, c'est un peu grâce à Fred, mon amoureux.
Qui lui-même est sportif.
Voilà, et qui participe aussi du fait que tout est possible. Et il me dit, mais si, bien sûr que tu peux faire de la plongée, bien sûr que tu peux faire du surf, de l'équitation, du ski et tout ça. Et donc, en fait, si vous voulez, le handisport, c'est vraiment des adaptations. Et en fait, c'est être un peu ingénieux. C'est-à-dire que il y a 1000 handicaps différents, donc il y a 1000 adaptations différentes en vrai. Donc c'est un peu à chacun de trouver en fonction justement de son handicap, qu'est-ce qui pourrait être possible pour que finalement on puisse faire tel sport. Et voilà, le ski, ça peut aussi se faire assis. C'est vrai qu'à la base, on n'y pense pas, mais voilà. Voilà, il y a plein de choses comme ça. Et encore une fois, c'est encore des préjugés finalement à combattre pour dire qu'en fait, il y a des solutions.
Quand je vous écoute et quand je lis votre livre, je me dis que on est tous quelque part un peu cabossés, on est tous quelque part un peu handicapés aussi. Parfois on a des handicaps invisibles, parfois on a des handicaps de l'âme. Enfin voilà, j'ai l'impression qu'en fait vous avez été à travers cet handicap libéré d'autres handicaps. Vous voyez ce que je veux dire ?
Oui, bien sûr. C'est aussi un peu le message de mon livre, c'est de dire que finalement c'est aussi pour tous ceux effectivement qui sont des blessés de l'âme, de dire qu'il y a tout toujours des solutions finalement pour dépasser certaines situations et réinventer sa vie de la manière dont on l'entend en fait. Et donc c'est vraiment un message. Et moi, je pense qu'effectivement, j'ai fait repartir mon histoire familiale sur de nouvelles bases. Alors ça paraît un peu prétentieux dit comme ça, mais c'est vrai que quand je vois mes filles, par exemple, qui sont hyper gays, hyper libres, hyper épanouies, qui ont 8 ans d'écart, mais qui s'entendent, c'est trop mignon de les voir ensemble. Et je me dis que j'ai quand même réussi au moins ça. Et je sens qu'en tout cas, elles n'ont pas ce poids que moi j'avais avec tous les dépressifs qu'il y a eu dans la famille, ces tentatives de suicide, ces destins aussi non résolus. C'est-à-dire que j'ai eu plein d'ancêtres qui voulaient faire des métiers et finalement qui n'ont pas pu les faire.
Alors que vous êtes réalisée.
Voilà, et je pense qu'il y avait comme une urgence à ce que moi, finalement, je fasse la vie que je souhaite pour briser en fait ce cercle infernal en fait.
On a le sentiment dans votre livre aussi que vous êtes effectivement le maillon qui casse dans une sorte de chaîne.
C'est ça.
Et qu'en fait, peut-être que des choses vont, enfin, c'est pas peut-être d'ailleurs, c'est que de jolies choses vont repartir de cette branche là.
Oui,
vous voyez ce que je veux dire?
Oui. Et puis ça peut bouger dans l'autre sens aussi. Hein. D'ailleurs, ça peut bouger aussi dans les ascendants.
Alors justement, quels sont vos objectifs à vous là? Qu'est-ce qui vous attend? C'est quoi vos rêves?
Mes rêves.
Vous avez déjà fait plein de trucs là.
En fait, j'en ai plein. J'en ai plein dans plein de domaines, si vous voulez. En fait, moi, j'adore la transmission. Je pense que j'ai vraiment, une envie là-dedans. Alors aussi bien dans des conférences que aussi dans mon art, en fait. Là, j'organise mon premier vrai stage de peinture cet été, qui est déjà presque complet, de peinture créative, justement, où les gens doivent se lâcher, lâcher leurs émotions pour aller vers leur propre créativité.
Donc, on verra tous, hein, on est bien d'accord.
Ouais, sauf pas pour ceux qui veulent dessiner des petits chats ou des bateaux.
D'accord, ok. Bon, allez, anti-chat et anti-bateau.
Voilà, et après moi j'aime bien les projets un peu fous, donc ça peut être aussi, peindre un conteneur en haut de, des trucs un peu incroyables, toujours dans cette idée aussi de combattre des préjugés. Je trouve que voilà, ça c'est le genre de truc qui m'amuse. Après, tous les projets fous en fait qui peuvent être l'occasion de belles rencontres humaines aussi, et puis évidemment des résidences. J'adorerais partir en résidence plusieurs mois en Afrique ou des choses comme ça pour avoir encore un autre point de vue, si vous voulez, échanger avec des artistes africains sur leur façon de travailler, sur leur regard sur les choses. Enfin, ça sera un peu dans mes prochaines années, ça sera un peu mes projets.
On a l'impression que vous rattrapez comme un temps perdu.
Ouais.
Que vous avez une urgence et un appétit à vivre, quoi.
Donc, oui, ça, c'est ça. Je pense qu'il faut toujours vivre comme si c'était le dernier jour. Et c'est vrai qu'en on vit comme ça, c'est génial parce que en fait, on remplit bien ses journées, mais avec du sens.
Ben merci beaucoup parce que c'était contagieux aujourd'hui. Ça nous a fait un bien fou de vous entendre. Je rappelle donc votre livre « Une vie à inventer » aux éditions Albin Michel. C'est plus que l'histoire du handicap. Hein.
Ouais,
c'est vraiment un vrai plaidoyer pour une vraie philosophie de vie. Merci beaucoup. Merci Priscille.
Merci Flavie.
Merci à tous de nous avoir accompagnés pendant cette heure. On se retrouve demain dès 14h30. On va se faire une petite autoconsultation, voire même une autocritique collective. Rappelez-vous le temps où vous n'aviez pas de smartphone. Étiez-vous vraiment la même personne qu'aujourd'hui? En quoi ces petits machins qui sont au fond de notre poche et au bout de notre bras nous ont-ils transformés? Ce sera demain avec vous en direct sur RTL. D'ici là, prenez grand soin de vous. Je vous embrasse, à demain.
Flavie Flamand sur RTL.